On continue notre série à travers la première moitié de cet évangile. Et on est arrivé à Jean chapitre 6 ce matin. Alors je ne sais pas si je suis le seul à ressentir ça parfois, que pour des personnes qui disent avoir Dieu avec nous, les chrétiens en galèrent parfois beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là. Moi, souvent, et juste cette semaine, à cause de ce que Rémi et Lydie ont vécu, et Titouan, avec un jugement qui était en cours pour la garde de Titouan, moi, pendant des mois, j'étais de plus en plus confiant que Dieu allait faire quelque chose d'énorme et nous surprendre. On priait pour ça, la confiance grandissait, et puis mardi soir, énorme déception dans le jugement qui est rendu. Et on se dit, mais si Dieu est pour nous, pourquoi? Pourquoi des moments de déception comme ça? Pourquoi il nous permet des souffrances pareilles? Que ce soit la maladie, que ce soit des déceptions, que ce soit des conflits. Pourquoi des chrétiens qui ont le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, à leur côté et pour eux, pourquoi autant de choses difficiles? Et le texte de ce matin traite cette question, ne dit pas tout sur la question. Il faudrait des heures et toute la Bible pour regarder tout ce que Dieu a voulu nous dire sur la souffrance et le pourquoi de la souffrance. Mais on va regarder Jean chapitre 6, les versets 1 à 21, pour voir un aspect de la réponse à cette question. Je vais lire et puis je vais prier encore. Après cela... Donc c'est page 691 dans les Bibles blanches, chapitre 6, verset 1, 691. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que les gens aient à manger ?» Il disait ça pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait là beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et il s'approchait de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vais prier et on va regarder ce que Dieu veut nous dire à travers ces quelques versets si importants. Père, tu vois l'état de nos cœurs à tous. Tu sais exactement ce que tu veux faire et accomplir à travers ta parole dans chacune de nos vies. Et on te demande la grâce que tu le fasses. Rends-nous réceptifs à l'écoute de ta parole. Et s'il te plaît, aide-nous à mieux comprendre pourquoi tu permets ce qu'on vit et ce que tu veux qu'on apprenne au milieu de nos plus grandes difficultés. S'il te plaît, que Jésus soit glorifié au milieu de nous ce matin. Amen. Alors, on va regarder trois aspects et je risque d'esquiver un peu le deuxième miracle, ou même le deuxième et le troisième miracle dans la fin du texte. On va se concentrer surtout sur le miracle qui est peut-être le plus connu des miracles de Jésus, parce qu'il est dans les quatre évangiles, la multiplication des pains pour les 5000. Et on va surtout se concentrer donc sur celui-là, mais vous allez voir que c'est vrai pour les deux. Premièrement, regardons que Jésus n'évite pas les problèmes. Jésus n'évite pas les problèmes. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture, Jésus crée le problème. Rien n'oblige Jésus de nourrir ces 5000 personnes, 5000 hommes. D'ailleurs, a priori, ils étaient bien plus que 5000, parce que le texte grec, c'est vraiment des hommes au masculin. Donc, on peut imaginer les femmes et enfants sont aussi là. Donc, beaucoup de spécialistes spécialistes de la Bible pensent peut-être qu'il y avait 15 à 20 000 personnes qui étaient là dans la plaine. Jésus les voit et il voit une opportunité de créer un problème pour ses disciples. Et donc, c'est Jésus qui demande à Philippe, un de ses disciples qui était originaire du coin de Bethsaïda. On apprend ça dans le début de l'évangile selon Jean. Et donc, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et le texte est hyper clair. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. L'objectif de Jésus semble être de tester ses disciples. On voit même plus que ça, donc, c'est quoi le but des difficultés? L'objectif des difficultés? Les difficultés montrent ce en quoi on croit vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les mystères de Sherlock Holmes ou pas. Moi, j'ai tout lu. Je suis un vrai geek à ce niveau-là. J'ai les deux volumes, l'intégrale de Sherlock Holmes. Et il y a une des histoires où ils essayent de savoir où la criminelle a caché un objet très important pour elle, et Sherlock Holmes démarre un feu dans la maison de cette femme, parce qu'elle sait, au moment où elle voit les flammes, elle court à l'endroit où elle a caché l'objet tant convoité. La difficulté montre qu'est-ce que tu désires, montre qu'est-ce que tu as compris, montre vraiment qui tu es. Et Jésus, dimanche dernier, on l'avait vu, mais c'est le chapitre précédent, Jésus a enseigné sur qui il était, sa relation avec son Père, sa divinité. Et en église de maison, quelqu'un a remarqué que heureusement que Jésus fait tant de miracles, parce que sinon on le prendrait pour un fou. Il dit des choses tellement extravagantes sur lui-même que s'il n'était pas capable, après coup, de nous prouver par des miracles que ce qu'il dit est vrai, on aurait peut-être beaucoup plus de mal à croire. Et ici, dans ce miracle qu'il va faire, Jésus, justement, est en train de tester la foi, la compréhension de ses disciples. Est-ce que vous croyez ce que je vous ai dit précédemment? Philippe, visiblement, n'a pas compris encore. Parce que lui, sa réponse est « Bah, on n'a pas assez de fric pour ça, Jésus, ça va pas. 8 mois de salaire ne suffiraient pas, si on mettait dans une traduction contemporaine. 8 mois de salaire ne suffiraient pas pour que tout le monde ait un petit bout. La foule est énorme. Et il voit juste, matériellement, physiquement, humainement, c'est impossible, Jésus. Mais Jésus vient de dire que tout ce que le Père fait, il fait aussi. tout ce qu'il voit le Père faire, il le fait. Il fait toujours la volonté de son Père. Il a toute puissance. Et Philippe, pourtant, ne va pas prendre le bon angle. Il n'a pas la bonne réponse. Et je ne sais pas, je sais pas tout ce que chacun est en train de vivre ici ce matin. Hein. Et parfois, les problèmes, c'est là où c'est beaucoup plus complexe, parfois les problèmes qu'on est en train de vivre sont aussi liés de notre faute. Je veux dire, il y a une différence entre se faire agresser et se faire agresser parce qu'on était à 4 heures du matin avec des inconnus bourrés. Je veux dire, c'est, vous voyez, il y a souffrance et souffrance. Mais n'empêche, peu importe ce qu'on est en train de vivre, est-ce qu'on est en train de vraiment croire que Jésus a toute puissance sur la difficulté, sur le problème, et ici sur le manque que nous reconnaissons, que nous expérimentons? Est-ce que nous croyons ce qu'on sait, ce qu'on chante, ce qu'on confesse? Est-ce qu'on le croit vraiment? Que Dieu, que Jésus va pourvoir à nos besoins? Est-ce qu'on croit vraiment que quand on prend des risques pour que Jésus soit proclamé, que Jésus va nous rencontrer, répondre à nos besoins? Est-ce qu'on le croit vraiment que dans ta souffrance, dans ta maladie, peut-être qu'il ne va pas te guérir, peut-être qu'il va le faire, mais que Jésus va te combler ce qu'il te manque, il va t'accompagner, il est tout puissant. Est-ce qu'on le croit? La souffrance révèle ce qu'on a vraiment compris. Et Jésus nous aime trop pour ne pas nous éprouver. Et donc ce serait déjà un premier élément de réponse. Pourquoi est-ce que les chrétiens parfois galèrent tant? C'est parce qu'on est chrétien. Et Jésus nous aime. Et il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on voit là où on est en train de progresser et là où il y a encore de la marge de progrès. Son but, c'est pas de nous épargner de toute difficulté. Mais toute difficulté peut devenir une occasion de grandir, de mieux le connaître, de mieux l'aimer, de mieux lui faire confiance. Qu'il est vraiment qui il dit être. Et c'est facile de lire Jean et de croire, ou de croire qu'on croit. Mais c'est une toute autre chose. Face au feu, l'incendie dans ta vie, de vraiment continuer à croire ce que tu crois. Et donc, si le texte avait un objectif, il me semble que, ou une leçon centrale, c'est que pour nous les chrétiens, le problème, c'est pas d'avoir des problèmes. Certains ont cette théologie, hein, cette croyance que si j'ai une difficulté dans ma vie, c'est parce que j'ai fauté quelque part, j'ai désobéi, j'ai dû faire un truc de travers. Non, le problème, c'est pas d'avoir des problèmes. Le problème, c'est d'essayer de les résoudre sans Jésus. C'est d'essayer de les résoudre comme s'il n'était pas qui il y être. Et c'est chaud, je le sais, on le sait. On grandit dans une culture professionnellement où plus tu sais te débrouiller seul à résoudre des problèmes, plus tu vas être promu, plus tu vas être apprécié par tes patrons. On est dans une culture où nos parents essayent de nous rendre indépendants le plus tôt possible. Ils disent, ouais, t'es un grand, tu peux le faire. Le disciple de Jésus, il doit trouver de la gloire à être dépendant de Jésus. Il doit se réjouir d'être un enfant qui vient à Jésus et qui demande de l'aide, Et donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, que ce soit dans le couple, que ce soit un problème au travail, que ce soit un problème avec les enfants, que ce soit une difficulté émotionnelle. Est-ce que tu es en train de venir à Jésus comme un enfant qui n'a pas peur que sa requête soit égoïste, que sa requête soit mal placée, le mauvais timing soit complètement extravagant? Je t'ai déjà mentionné hein, que les enfants peuvent demander n'importe quoi. Moi, vraiment, littéralement, il y a 2 semaines, Noah m'a demandé une Tesla. Et il veut, tu peux m'acheter une Tesla pour Noël, pour mon anniversaire? Je lui dis, ah, c'est beaucoup trop d'argent, hein, j'ai pas ça. Bah, je peux donner aussi mon argent, papa, et comme ça, on achète à deux. Je dis, bah, ça va toujours pas suffire, fiston, je suis désolé. C'est 100 000 euros la Tesla, hein. En tout cas celle qu'on veut. Lui, il ne réalise pas du tout que ce qu'il demande est complètement, complètement pété, quoi. Et est-ce que tu viens à Jésus sans craindre que ce que tu demandes est fou? Le problème, ce n'est pas d'avoir des problèmes. Le problème, c'est vraiment d'essayer de les résoudre, de les traiter comme si Jésus n'était pas qui il y être. Et alors, regardons justement en deuxièmement, comment est-ce que Jésus est la solution dans ce passage. D'ailleurs, en exemple de quelqu'un qui vient beaucoup plus simplement à Jésus, on a André, qui est un bon exemple. Verset 8, un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» On ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'il a en tête, André, de venir à Jésus comme ça et de proposer ça. Donc on sait les pains d'orge, c'était le pain des pauvres, hein. C'était vraiment le bas de gamme, ce serait le pain blanc aujourd'hui. 2 petits poissons, peut-être poissons secs. Voilà, donc bon, tu as 20 000 personnes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait en venant à Jésus avec ça. Mais clairement, Jésus honore cette proposition. Et à partir de ces 5 pains d'orge, Jésus va combler absolument tous les besoins alimentaires de cette foule. Et c'est très clair. Jean, il prend de la peine pour nous le préciser. Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. 2 poissons pour 5000 hommes. Et ils en ont eu autant qu'ils en voulurent. Et il continue. Lorsqu'ils furent rassasiés, ils ont été rassasiés avec 5 pains d'orge et 2 poissons. 2 petits poissons. Quand ils ont été rassasiés, Jésus, il veut ne pas gaspiller et certainement aussi nous montrer qu'il est capable de pourvoir à tous nos besoins, il dit ramassez les restes. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Donc pour vraiment nous préciser, parce que certains, les personnes qui sont spécialistes de la Bible non-croyants, diraient oui, mais en fait, tout le monde a un peu à culpabiliser en voyant la générosité de ce petit garçon et tout le monde s'est mis à partager son casse-croûte, machin. Non, non! Le texte est hyper clair. C'est un miracle. Tous ces restes, c'est à partir des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Jésus est la solution au manque. Il est capable de bien plus que ça. Mais ici, il illustre, il montre sa puissance. Et je ne sais pas ce que ça veut dire dans ma vie, dans ta vie, comment est-ce qu'il va répondre? Mais on doit savoir qu'il est capable et tout à fait puissant pour résoudre le problème, les problèmes, les difficultés qu'on est en train de vivre, les manques qu'on ressent en ce moment. Est-ce qu'il va les combler comme tu penses? Probablement pas. Mais peut-être qu'il va le faire mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Tout comme avec le jugement pour Rémi et Lydie. Hein. Moi, franchement, si j'étais Dieu, j'aurais plein d'idées. Hein. Mais Dieu est heureusement infiniment plus sage que nos prières. Et lui, il va faire. Et c'est dur parfois de faire confiance. Mais on sait qu'ultimement, il agit pour ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et ça peut vraiment parfois être une lutte. Mais on doit se rappeler des histoires comme celle-ci. Jésus a toute puissance sur la nature pour combler les manques. Et en le faisant, hein, il prouve sa divinité. S'il a affirmé sa divinité au chapitre 5, ici il le prouve. Les Juifs s'attendaient à ce qu'un Messie comme Moïse vienne un jour aussi les libérer, aussi les conduire dans le bon chemin. Et Moïse était connu d'avoir nourri pendant 40 ans au désert le peuple d'Israël. Avec de la manne, un genre de pain étrange. Manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est en hébreu. Avec un qu'est-ce que c'est qui tombait du ciel et il mangeait ça. Et Moïse était célèbre pour ça. Et on s'attendait à ce que le prophète qui vient après, comme Moïse, fasse quelque chose de similaire. Et ici, Jésus nourrit une foule, peut-être de 20 000 personnes. Il est capable de faire comme Moïse. Sauf qu'on va voir dimanche prochain qu'il fait bien plus que Moïse. Oui, Moïse a fait 40 ans et Jésus n'a fait qu'un repas. Mais Jésus, dans la suite du texte qu'on voit dimanche prochain, il nous montre qu'il est plus que simplement un faiseur de miracles. Il est celui qui donne cette vie éternelle. Il est celui que, si tu manges ce pain qu'il a donné ce jour-là, ces pains d'orge, bah, tu vas encore avoir faim demain. Tu vas encore avoir des manques demain. Et il est venu pour être celui qui comblerait tous les besoins pour qu'on puisse vivre éternellement. Cette fameuse vie éternelle qu'il mentionne tout au long de l'évangile selon Jean. Et on termine avec une troisième remarque. C'est Jésus est même plus la solution qu'on réalise. Parce que nous, on voit le pain et on se dit « Génial, il a répondu aux besoins ». On peut voir la tempête et on dit « Parfait, il a calmé la tempête ». Ils avaient besoin d'arriver à l'autre bord du lac. Parfait, ils sont arrivés direct. Mais Jésus est encore plus la solution qu'on ne réalise. Et il y a plusieurs indices de ça. Dans le texte, regardez verset 14. « À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Donc, ils sont épatés par le miracle. Et on l'aurait été aussi. C'est un vrai miracle. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Un indice que Jésus vient faire plus que combler des manques physiques, c'est qu'il refuse d'être couronné roi à ce moment-là. Franchement, c'est inouï. Imaginez un politicien qui refuserait un poste. En France, un politicien qui refuse un poste, ils sont tous en train de faire la cour aux grands pour essayer d'avoir un poste de ministère, une mairie, machin, ils font des arrangements. Tout le monde a faim de pouvoir, peu importe s'ils sont qualifiés ou pas. Ça, ils s'en fichent, pour certains. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, je ne connais pas les politiciens. Mais on a faim de pouvoir. Les hommes et les femmes qui sont dans la politique ont faim de pouvoir. Et Jésus nous montre ici que lui n'a pas faim de pouvoir. Il vient faire plus. Et s'il accepte d'être roi, s'il accepte de mener une rébellion, il va échouer dans ce pourquoi il est vraiment venu. Et l'autre indice de cela, c'est verset 4. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Pourquoi est-ce que Jean mentionne ce petit indice, cette petite information en passant? Probablement pour qu'on comprenne à la fois les événements proches mais aussi lointains. La Pâque est mentionnée trois fois. C'était la fameuse fête où on célébrait la libération des Israéliens de l'esclavage d'Égypte. C'était la grande fête nationale. Et elle est mentionnée trois fois dans l'évangile selon Jean. La première fois, c'est quand il nettoie le temple. On l'a déjà vu. C'était à la Pâque. Là, on est proche de la Pâque. Il fait deux miracles. Et la troisième fois, c'est quand il va mourir sur la croix. Et c'est l'indice ici que les miracles qu'il accomplit, la deuxième Pâque, pointe vers la troisième Pâque. Qu'est-ce qu'il fait ici dans ce premier miracle? Il comble nos manques physiques. Mais il doit mourir à la croix pour devenir le pain de vie qui nous donne plus jamais, qui nous comble éternellement notre faim de sens, notre faim de vie. Le miracle où Jésus calme une tempête et marche sur l'eau, est-ce que ça pointe pas, pour les Hébreux, les Juifs, ils avaient peur de la mer dans le sens que c'était le symbole du mal, de la mort. Et Jésus marche dessus. Est-ce que c'est pas le signe qu'à la troisième Pâque, il va calmer la tempête de la mort? Il va vaincre et marcher sur l'eau, sur la mer de la mort. Il calme la tempête pour de vrai. Et on n'a plus besoin de craindre la mort. Parce que nos péchés sont payés. Dieu, la justice de Dieu est apaisée et on est réconcilié avec notre Créateur. C'est beaucoup d'infos tout ça. C'est beaucoup d'infos. Mais est-ce que tu es conscient, est-ce que je suis conscient de ça, que si je ne suis pas croyant, si je ne suis pas chrétien, si je ne crois pas que Jésus est mort pour mes péchés, tu peux avoir beaucoup de problèmes, mais tu as un problème beaucoup plus grand actuellement. Tu dois d'abord commencer avec celui-ci. Jésus n'est pas pour nous tant que nous ne réalisons pas qu'on a besoin de lui pour nos péchés, qu'il est venu pour calmer avant tout le jugement qu'on va subir à la fin des temps pour notre rébellion, nos péchés. Et peu importe ton âge, tu peux aujourd'hui croire en ce Jésus-là, qui est puissant pour faire des miracles, mais qui est humble pour aller jusqu'à la croix et mourir pour moi et pour toi, pour que plus jamais nous n'ayons besoin de craindre la colère de Dieu sur nos péchés. Et si notre plus grand problème est réglé à la croix, et si on le croit, si tu te dis disciple de Jésus, est-ce que tu crois au quotidien, dans ce que tu es en train de vivre cette semaine, que Jésus est à tes côtés, à table où tu constates le manque dans ta famille, il est à tes côtés et il est capable de pouvoir au manque. Est-ce que dans la tempête de ta vie, est-ce que tu es conscient qu'il a calmé la plus grande tempête qui sévissait contre toi, celle de la mort spirituelle, l'enfer éternel qui nous attendait tous, et qu'il est capable de calmer n'importe quelle tempête. Seulement, dans ces tempêtes, dans ces manquements, est-ce qu'on est en train de venir à Jésus comme vraiment Jésus? Ou est-ce qu'on vient à lui en dernier recours? Est-ce qu'on vient à lui en lui demandant un peu un coup de pouce, un peu d'aide? Un coup de main, s'il te plaît, Jésus, parce que j'ai quand même fait 90% de tout de mon côté, et j'aimerais vraiment qu'on aille dans cette direction. S'il te plaît, Jésus. Ou est-ce que tu viens à lui? Je ne dis pas qu'il faut être passif. La Bible nulle part dit qu'il faut être passif en attendant que Jésus règle tout. Mais est-ce que tu viens à Jésus comme ton maître, comme ton roi, comme celui qui est tout puissant, comme celui qui sait mieux que moi ou toi ce dont on a besoin? Est-ce qu'on lui fait confiance? Dans le jugement qui m'a tellement dégoûté mardi, nous on rêvait tous d'autre chose. On priait pour autre chose. On priait pour un retournement de situation, mais en faveur de Titouan. Et hier, surprise, les choses se sont débloquées différemment. Ce n'est pas du tout ce qu'on aurait vu voir. Ça semble encore très étrange. On va voir comment les choses se passent. Mais peut-être que Dieu est en train de faire quelque chose de bien plus beau que ce qu'on aurait pu imaginer. Quelque chose qui tient beaucoup plus, comment dire, qui a beaucoup plus à cœur le bien de toutes les personnes concernées, alors que nous, on serait plus en train d'essayer de juste avoir une personne ou quelques personnes à cœur. On n'arrive pas à voir comment tout le monde peut progresser. Peut-être même la maman de Titouan pourrait être sauvée par Jésus un jour. On n'arrive pas à imaginer. Et Dieu est pourtant dans la barque. Jésus est à nos côtés. Il a tout pouvoir. Est-ce qu'on le croit? Je vais prier pour nous. Jésus, tu vois nos cœurs, tu sais ce qu'on est en train de vivre et tu sais là où on est en train de vraiment galérer à croire en qui tu es. Enlève, s'il te plaît, les obstacles. Augmente notre foi. Et tu vois, Jésus, que j'aimerais tellement, on aimerait tellement, on est plusieurs à le prier, que tu sauves des dizaines de personnes cette année, qu'ils puissent te connaître comme l'être le plus précieux, comme leur sauveur, comme leur roi, leur maître, leur ami. Et ça nous dépasse complètement. On vient à toi vraiment avec rien dans les mains. Mais Jésus, s'il te plaît, donne-nous foi en toi. Agis, guéris, donne-nous la persévérance. S'il te plaît, aide-nous tous les jours à commencer, vivre et terminer notre journée conscient de ta présence avec nous. Qu'on la vit comme ton serviteur. Et s'il te plaît, transforme nos vies, transforme nos couples, nos familles, notre église, les églises qu'on essaie d'implanter, transforme, s'il te plaît, tout ce qu'on fait, parce qu'on sait que tu es avec nous. Aide-nous à te suivre plutôt que te rajouter la dernière minute dans les projets. Sois notre roi vraiment, et pas juste dans ce qu'on chante, s'il te plaît.